Et c'est maintenant l'heure de la Libre Antenne avec vous, Sabine Marin. Bonsoir.
Bonsoir Chanel.
On se retrouve dans une heure.
Dans une heure pour un nouveau point sur l'info. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, 23h, 1h, la Libre Antenne. Sabine Marin.
Bonsoir à vous, bienvenue sur cette libre antenne du samedi soir, cet espace dans lequel vous pouvez vous poser, vous confier et exprimer vos émotions. Nous sommes des êtres faits d'émotions. Vous le savez, la partie intellectuelle de notre cerveau ne gère que 15% de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. L'autre, la partie émotionnelle, 85%. Nous sommes donc tous des êtres remplis d'émotions. Joie, tristesse, colère, dégoût, peur, surprise. Vous connaissez tout ça, bien sûr. Et si toutes ces émotions existent, c'est pour être exprimées. Le problème, c'est que depuis qu'on est tout petit, on nous dit « arrête de t'écouter, prends sur toi, pense à autre chose, arrête de pleurer ». Et d'après vous, où elles vont toutes ces larmes qui n'ont pas pu couler? Où est-ce qu'ils vont tous ces mots qui n'ont pas été dits? Eh bien, ils restent coincés à l'intérieur et font des nœuds dans lesquels on finit par se prendre les pieds. Un labyrinthe d'émotions dans lequel on finit par se perdre en grandissant. Et c'est pour ça, quelquefois, ça devient si difficile de trouver son chemin. Alors ce soir, je vous invite à libérer ces émotions, à libérer tout ce qui reste à l'intérieur et qui fait mal pendant ces 2 heures de libre antenne. Nous sommes là pour vous écouter, vous comprendre et si possible vous aider, vous éclairer en douceur et avec bienveillance. Pour prendre la parole et exprimer ces émotions, mais aussi vos soucis, vos questionnements, un seul numéro de téléphone, le 3921, Amandine et Hassan vous attendent au standard d'Europe 1. Pour participer par SMS, vous faites le 739-21 en pensant bien à commencer par le mot « nuit ». Ce soir encore, rejoignez-moi dans cet espace chaleureux de confidence et prenez enfin votre bien en urgence plutôt que votre mal en patience. À la réalisation, Andreas Papadian est fin prêt. La Libre Antenne, ça commence donc maintenant.
Europe 1, la Libre Antenne. Sabine Marin.
Et ce soir, on va commencer cette Libre Antenne avec Marie qui vient de découvrir quelque chose qu'on lui avait caché, qui ne sait pas trop comment réagir. On en parle avec elle dans un instant. Bonsoir à vous Marie.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue sur cette Libre Antenne.
Je vous remercie de m'accueillir dans votre émission.
Alors racontez-nous un petit peu ce qui vous est arrivé.
Oui, bien écoutez, j'ai le sentiment en entendant votre introduction que j'ai un mélange de sentiments, en effet, la tristesse, la colère, le questionnement et je compte un petit peu, c'est vrai, sur vous et peut-être sur des auditeurs ou auditrices qui auront vécu la même chose pour m'éclairer un petit peu. Je suis un petit peu perdue.
Mettez tout sur la table, on va faire le tri.
Donc, écoutez, j'ai un compagnon depuis maintenant une dizaine d'années tout de même. Donc, quand je dis compagnon, bon, nous n'avons rien, même si ça peut être étonnant, nous n'avons rien construit, je dirais, en termes de, j'en sais rien, de maison ensemble ou de choses comme ça.
Vous vivez où alors?
C'est-à-dire que nous avons chacun notre domicile, mais qu'il est quand même très très souvent chez moi, puisque son fils occupe son domicile. Voilà, donc il est en général, il est chez moi.
Donc il a un enfant?
Non, il a deux garçons, deux grands garçons.
De quel âge?
Eh bien, 36 et 30 ans.
Ah oui, donc ce ne sont plus des enfants, d'accord.
Oui, enfants au niveau de la filiation, mais oui, effectivement, d'accord. Plus des... Voilà.
Et vous avez des enfants aussi?
Absolument, moi j'ai 3 enfants.
Ok.
Voilà, j'ai 3 enfants. C'est une relation qui a débuté, je dirais, de manière un petit peu compliquée, parce qu'il avait été quitté par sa femme. Moi, je l'ai rencontré en, en tout bien tout honneur, je dirais, en tant qu'homme qui m'a dit être divorcé. Donc voilà, pour moi, c'était un homme libre, il n'y avait pas d'ambiguïté. Il se trouve qu'il était en instance de divorce, donc c'est pas tout à fait la même chose, je dirais, mais bon, voilà, soit on considère, en tout cas, il était libre. Donc, je ne me suis pas posé de, je dirais, de questions à l'époque sur, sur un quelconque problème dans notre relation. Je vais faire un saut, vous m'arrêterez si vous le souhaitez, je vais faire un saut très très rapide 10 ans plus tard, c'est-à-dire il y a quelques mois, où j'ai découvert en fait qu'une situation que je croyais complètement terminée, puisque nous avions eu une discussion déjà assez vive à ce sujet il y a à peu près 5 ans, au milieu de ces 10 années-là. Et en fait, mon grand désespoir, je me rends compte qu'on n'a pas forcément beaucoup avancé dans notre histoire et qu'on va plutôt un petit peu à reculons. Donc, je suis perdue, c'est vrai. Ce qui se passe, en fait, pour essayer de, de voir où est le point noir. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, malgré toutes nos discussions à ce sujet, je me suis rendu compte avant les fêtes, là, qu'il y avait toujours ce que j'appelle des pseudo réunions familiales, parce que pour moi, il n'y a plus il y a une famille, qui est entre les parents et les enfants, bien évidemment, mais pour moi, quand il y a divorce, c'est mon avis, en tout cas pour moi, ce n'est pas acceptable. Pour moi, il n'y a pas lieu d'avoir des retrouvailles, autour d'un anniversaire ou d'un réveillon, ou en tout cas, moi, je n'arrive pas à l'accepter, sachant que tout se fait à mon insu, avec donc obligatoirement des mensonges, puisqu'il n'y a pas le choix. Des mensonges, et moi je me sens trahie, je me sens trompée. Nous n'avons pas forcément avec mon compagnon la même définition de la tromperie, mais moi je me sens trompée. Et triste parce que en fait je suis en plus toute seule, toute seule dans la panade, puisque en fait ces enfants apprécient énormément et favorisent ces choses-là, ces repas, voire même des retrouvailles bien plus fréquentes que je n'aurais imaginé en fait. Et tout ça, dans mon dos, alors qu'en plus, il me semble que j'ai vraiment ce sentiment d'avoir été bernée, parce qu'en plus c'est moi qui l'ai vivement j'ai du mal à trouver mes mots, je lui ai vivement conseillé de faire Noël avec ses enfants cette année, parce que les autres années il était avec moi et je le sentais toujours un petit peu triste, ce que je comprends complètement, parce qu'il n'avait, depuis son divorce, il n'avait jamais fait vraiment le réveillon avec ses enfants. Donc je l'ai incité, c'est le mot que je cherchais, je l'ai fortement incité, je lui dis cette année, même si tu n'es pas avec moi, impose-toi entre guillemets, mais propose-leur de faire ce réveillon, ils sont là, vous pouvez le faire ensemble. Et donc c'est à mon initiative que ça s'est fait, et finalement, ce qui allait se faire, parce que je l'ai découvert et du coup ça ne s'est pas fait, mais ce qui allait se faire, c'était le réveillon chez l'ex-femme avec les enfants, les amis, les copines des enfants, l'ancienne famille.
J'ai deux questions, parce que vous avez mentionné tout à l'heure quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans.
Oui.
Alors racontez-moi ça, c'est important. Bien,
en fait, c'était déjà ce même style de situation. Il y a eu, avec mensonge, il y a eu en fait une sortie imaginée avec des copains, tout ça. Et finalement, c'était un anniversaire qu'on allait fêter en famille, dans un restaurant. Le problème, c'est qu'il, comme nous tous, je pense, quand on ment, on n'est pas à l'aise et ça se voit, et une femme le voit assez vite. Donc effectivement, j'ai creusé et puis il m'avoue les choses, mais il ne voit pas le mal à ça, et moi je ne l'accepte pas. Ce qu'il faut pas oublié de vous dire, c'est quand même qu'au début de cette relation, c'est pas non plus, une histoire peut-être banale, hein, mais au début de notre relation, il faut savoir quand même qu'il m'a quittée pour repartir avec sa femme. Donc, je pense que je suis en droit...
Ah, oui, une information qui change tout.
Ben voilà, c'est ça. Et il n'arrive pas à comprendre qu'effectivement, parce qu'il rencontre peut-être des gens qui, autour de lui, ont des continuent effectivement à avoir ce lien, je dirais, avec la famille. Mais auquel cas, je dirais aussi que si on doit être moderne, soyons-le jusqu'au bout. Et à ce moment-là, comme je lui dis, dans ce cas, vous avez envie de ces retrouvailles, d'accord. Mais pourquoi suis-je exclue? Et pourquoi, si l'ex-femme a un compagnon, est-il exclu? Faisons effectivement fêtons les anniversaires ensemble, mais avec vos compagnons.
Alors, est-ce qu'elle a un compagnon? C'est ce que j'allais vous demander.
Je ne sais pas.
Vous ne savez
je
pas.
Ne sais pas, il ne sait pas, mais en tout état de cause, si vous voulez, nous avons eu un échange, je dirais, dans les années qui étaient au début de notre relation. Nous avons eu un échange, cette femme et moi, et en fait, elle ne souhaiterait bien évidemment pas me voir, parce que, voilà.
Pourquoi bien évidemment? Il y a des fois où ça peut se passer très bien.
Hein. Ça peut se passer bien, évident. Mais là, si vous voulez, c'est pas... Oui, vous avez raison. Mais là, je l'ai appelée un jour en découvrant qu'il y avait toujours une espèce de relation pas claire. Là, il y avait une ambiguïté, des mensonges. Je le sentais et oui, effectivement. Donc, je dirais, il menait un petit peu un double jeu. Un double jeu. Et puis, ça va loin, hein, si vous voulez. Là, ça peut paraître même, pas seulement vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis des auditeurs, on peut dire, cette femme, elle est jalouse, enfin, ça s'arrête à ça. Mais si vous voulez, ça va sur des choses, parce que j'ai creusé, j'ai exposé, j'ai voulu qu'on mette carte sur table, et ça va quand même loin. C'est-à-dire que moi, il prend le prétexte, si vous voulez, de me dire que c'est pour faire plaisir aux enfants. Bon, là-dessus, on n'est pas du tout d'accord, parce que je pense qu'effectivement, ce sont des enfants, mais aussi des adultes, comme on disait tout à l'heure, et des adultes qui peuvent se mettre à ma place et qui font pas forcément le bonheur de leurs parents en agissant comme ça. Bon, mais moi, et j'ai d'ailleurs eu une explication avec le plus jeune fils il y a cinq ans, et qui au départ m'avait prise de haut en me disant, ben il faut bien t'attendre, il y en aura d'autres, des retrouvailles. Je lui dis, ben peut-être, ce sera votre choix, mais à ce moment-là, ce ne sera plus moi la compagne de ton père, parce que c'est quelque chose que je ne peux pas fonctionner de cette manière. Et il m'a dit, bon, il faudra t'y faire. Donc, et à la fin de la discussion, quand je lui ai expliqué mes sentiments, il a mieux compris. Il m'a dit, c'est vrai que je ne l'avais pas vu de ce point de vue-là. Et quand je lui ai dit de se mettre un petit peu à ma place,
je pense que c'est maladroit, parce que c'est pas avec lui qu'il fallait avoir cette conversation-là, je pense. Mais on va.
Oui, mais je l'avais tellement, c'est sûr.
Vous avez des gros sur la patate, bien sûr, aussi, j'imagine.
Je savais plus comment faire, et puis je ne savais plus qui disait vrai. Donc, je me rends compte que tout le monde se complaît. Ils se complaisent tous dans ce fonctionnement, et que moi, je suis un petit peu le vilain petit canard qui n'accepte pas ça. Mais ça va quand même loin, parce que soit on va se dire c'est pour les enfants. Mais en fait, en creusant, si vous voulez, il a eu un problème de santé assez grave, et je pense que ce n'est pas non plus... je pense que ça joue justement sur le fait qu'il se rapproche de sa famille, de nouveau, je dirais. Il a eu un problème assez grave cet été. Et là, pareil, en posant les cartes sur table, en discutant, je me rends compte que moi, il m'avait dit non, c'est pas la peine de venir me voir. Donc, j'avais le sentiment qu'il voulait vraiment être seul et tranquille pour régler ce problème de santé. Il était hospitalisé, ensuite en maison de repos. Et je me rends compte que son ex-femme lui a rendu visite. Et pas moi.
Oui, là, c'est une histoire à tiroir, en fait, votre histoire.
Ah, c'est, hein, oui.
C'est quand on ouvre le premier, comme vous dites, on se dit, ouais, c'est pas si grave que ça. Puis quand
on
ouvre le suivant, j'ai quand même plusieurs questions à vous poser. Il y a cinq ans, quand vous avez découvert ça, est-ce que vous lui avez mis un ultimatum? Est-ce que vous lui avez dit ça?
Non. Je n'y parviens pas. Je le mets sur le coup, mais je n'y parviens pas. Je n'y parviens pas parce que j'ai peur d'être seule. Voilà.
Je ne dis pas qu'il fallait le faire, hein. C'est juste que j'essaie de poser le décor pour comprendre certaines choses.
Oui, je dirais qu'en 10 ans, trois fois, il a déjà eu ses affaires, de sortie, et je lui ai demandé de rentrer chez lui. Donc il y a eu des séparations, mais rien n'y fait.
Alors comment ça s'est passé, comme vous dites, au début de votre relation, il est retourné avec elle, alors que c'est elle qui l'a quitté?
Absolument.
Racontez-moi cet épisode-là, parce qu'à mon avis, le nœud de l'histoire, il est quelque part par là.
Alors, sa femme l'a quitté, voilà, pour des raisons que je ne connais pas, mais elle s'est dirigée vers un autre homme, et il l'a découvert, c'est-à-dire que c'est un homme qui il a été trompé, voilà, et donc ils se sont séparés, mais ils ont toujours souhaité, j'ai toujours entendu ça en fait dans sa bouche dès le départ, c'est moi je veux de la courtoisie entre nous et je veux un divorce vraiment qui se passe bien. Je dis d'accord, c'est tout à votre honneur, mais c'est rarement quand même aussi simple. J'étais passée par là avant, même si toutes les histoires ne se ressemblent pas. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il s'est... Nous avons été... ensemble, hein, pendant, je dirais, 6 mois, tout se passait bien, hein, les débuts, très très bien, un homme qui avançait dans son divorce, donc pour moi tout était assez normal, et il a dû partir en fait, il a dû partir pendant 2 mois. Et pendant 2 mois, il s'est absenté, c'était prévu. Il était loin, il était très loin. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si vous voulez, il avait besoin de compter sur une personne vis-à-vis de son père, notamment, dont il fallait s'occuper. Enfin, il avait besoin d'un appui pendant cette absence, d'être rassuré. Et donc, il a demandé à son ex-femme, il lui a exposé la situation, et puis je pense qu'ils se sont vus à ce moment-là pour régler les choses. Bon, au bout de 6 mois de relation, je comprends très très bien qu'on ne m'ait pas demandé, moi, de pallier à son absence. Hein. Et voilà, il est parti 2 mois, et quand il est revenu, eh bien, je n'ai pas réussi à le joindre. Je n'arrivais plus à... J'étais sur messagerie tout le temps. Et puis, il a pris, au bout d'une semaine, son courage à deux mains pour me dire que, eh bien, il retournait avec sa femme.
Ok, comment est-ce que vous avez réagi à ce moment-là?
Très, très mal.
Ouais.
Très, très mal, parce qu'en plus, j'étais dans la passion amoureuse quand même. Hein.
6 mois, c'est le tout début, hein.
Bien sûr, hein, c'est tout début, et puis déjà abandonnée par un mari, moi, donc le sentiment de l'abandon qui revient. Cette femme, en fait, ils ont essayé, ils se retombaient dans les mêmes, je dirais, travers ou problèmes de leur couple qui ne me regardent pas. Qui ne me regardent pas, mais il est très satisfait d'avoir essayé, parce qu'au moins il est sûr, hein, voilà ce que j'ai toujours. J'ai dit, bon, pourquoi pas, c'est une façon de voir. Et donc là, normalement, à partir de là, c'était justement, c'était sûr. Hein, donc, logiquement, cette femme n'avait plus lieu d'être dans sa vie, pour moi, en tout cas. Et pourtant, on avait toujours cette espèce de relation pour, normalement, soi-disant, les enfants. Mais en fait, il n'a jamais vraiment coupé.
Est-ce que vous pensez qu'après, il y a pu se passer quelque chose quand même de plus qu'une simple relation de parents? Ou plus du tout?
Des tentatives de cette femme, oui. Je dirais pas forcément, moi je ne suis pas dans leur tête, ni à l'un ni à l'autre, je dirais pas forcément des tentatives parce qu'on s'aime encore. Mais des tentatives je vous ai pas dit quand même quelque chose, c'est que cette femme donc a quitté mon compagnon, voilà, a quitté son mari pour quelqu'un, mais qui est décédé peu de temps après.
Mmh.
Bon. Donc, malheureusement pour elle, je dirais. Bon, voilà. Donc, il y a eu une envie. Je ne sais pas, et ça, à la limite, peu importe. Je ne sais pas si c'est une envie si c'était une envie de récupérer son mari ou tout simplement que son mari ne soit pas heureux. Voilà, pour pouvoir faire perdurer.
Après, on est dans l'interprétation, là. C'est un petit peu.
Oui, c'est ça.
Ce qui est sûr, c'est qu'elle s'est retrouvée seule, en tout cas.
Oui. Mais en tout cas, ils tiennent tous à ces retrouvailles familiales, puisqu'il n'y a pas eu, en fait, qu'à Noël. Il y a eu aussi d'ailleurs, je vous disais 36, mais je me suis trompée, c'est 35. C'était 35 ans, donc il a fallu les fêter. Et donc, pour ça, on me raconte un tas de bobards, hein, mais il se trouve que j'ai une intuition, et puis qu'il y a surtout des concours de circonstances qui font que, pas de chance, on arrive à le savoir parfois.
Comment vous l'avez su, d'ailleurs, cette dernière fois?
Eh bien, quelqu'un... il était censé travailler chez lui et puis quelqu'un l'a croisé. l'a croisé à un endroit où il ne devait absolument pas être.
Et donc là, depuis cette histoire-là, vous en êtes où dans votre relation?
Eh bien, lui, de toute façon, à chaque fois qu'il y a, je dirais, un clash ou un froid, on oublie dès le lendemain, on redémarre. Comme si c'était rien passé. Hein. Donc lui, pour lui, il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi, aujourd'hui, il y en a un sérieux parce que, par exemple, il allait, c'était un petit peu, et je trouvais ça tout à fait normal, son fils travaille beaucoup et du coup, il n'avait que le dimanche pour aller le voir. Donc il allait le voir, il n'y a aucun souci là-dessus. Sauf que, madame était invitée pour le café en même temps. Pas forcément à chaque fois, mais... Donc il n'a jamais le problème, c'est que, comment vous dire, je pense réellement, je crois par contre en sa sincérité quand il me dit qu'il n'a plus de sentiments pour elle, je le crois. Mais par contre, il est incapable de se positionner vis-à-vis de ses enfants. Il en est incapable.
Oui, il doit y avoir une culpabilité quelque part.
Absolument. On a une culpabilité, on a une peur de les perdre et moi je lui dis, mais... Je ne pense pas que ses enfants l'aimeront moins, même s'ils se positionnent. Et en fait, au contraire, ça fait du mal à tout le monde, parce qu'au final, le réveillon ne s'est pas passé. Je veux dire, il n'est pas allé, puisque moi, là, j'ai mis l'ultimatum. J'ai dit, tu fais ton choix. Oui. Mais si tu y vas, là, je ne peux pas accepter ça. Et donc, il a fait du mal à tout le monde, parce que les enfants en ont certainement, souffert aussi, eux, qui se faisaient une joie d'avoir leur... Mais au-delà de mes sentiments, hein, moi, je n'arrive pas à comprendre, hein, en fait, cette envie de recréer une famille qui n'existe plus.
Je ne pense pas qu'il recrée une famille, il garde un lien qui, pour lui, est précieux pour les enfants.
Tout à fait.
Mais avant de parler de lui, dites-moi, quelles sont, vous, vos relations avec votre ex-mari?
Pas bonne. Pas mauvaise, mais pas bonne. Alors, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que nous échangeons pour le minimum. Mais moi, en toute honnêteté, 17 ans après, je n'ai pas accepté ce qui s'est passé.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il m'a quittée au moment d'une troisième grossesse. Pour une autre femme.
Et oui. Là aussi, en fait, je pense quand j'écoute
votre histoire,
voilà, c'est le même. Je pense quand j'écoute votre histoire que c'est ce qui se passe réactive quelque chose du passé. Mm-hmm. Et peut-être même si on va encore plus loin, il y a une grosse blessure d'injustice dans votre enfance quelque part. Je ne sais pas où, mais je ne serais pas surprise que...
Non, ça, j'y ai pensé, j'ai réfléchi, j'ai lu. Moi, j'ai eu des parents très aimants. Je n'ai malheureusement plus mon papa aujourd'hui, mais j'ai eu des... Et ça me manque, d'ailleurs, il me manque terriblement, parce que, si vous voulez, il y a la relation, justement, père-fille. Je ne dis pas qu'elle est forcément plus forte qu'une autre relation, mais mon père était celui qui me rassurait. Voilà, et aujourd'hui, je n'ai pas quelqu'un qui me rassure dans ma vie. Et j'en ai besoin. J'en ai grandement besoin.
Et oui, parce que votre premier mari n'a pas été rassurant du tout. Au moment où il allait devenir pour la troisième fois papa, il s'en va.
Tout à fait.
Il vous laisse. Donc ça, c'est l'injustice.
Alors,
c'est
il ne s'en va pas tout de suite. Il ne s'en va pas tout de suite, d'ailleurs. Hein. Il me laisse aller quand même. Enfin, j'ai pendant la dernière grossesse, donc très compliqué. Un homme qui a beaucoup changé, qui n'est pas très agréable, que je ne reconnais pas. Donc, il attend quand même que nous ayons cet enfant. Et puis... Très vite, au bout de 6 mois, mon bébé avait 6 mois, et là j'explose, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, je ne le reconnaissais plus. Donc oui, là il craque et effectivement là rien ne va plus, puisqu'il a entretenu pendant ma grossesse une relation adultère en fait, et il ne m'aime plus tout simplement.
D'accord. Voilà. Pardon de revenir là-dessus, mais vous aviez quel âge quand votre papa est parti ?
Mon papa est parti il y a en 2013.
Oui, donc vous aviez quel âge ?
Donc c'est pas vieux, hein. J'avais 44 ans.
Donc vous aviez déjà divorcé ?
Ah oui, d'accord. Depuis longtemps. Okay. Depuis longtemps. Et justement, mon père a été, tout comme ma mère et tout comme le reste de ma famille, ils ont été une aide très, très précieuse. Voilà, je veux dire, ils ont été très, très présents pour moi.
C'est pour ça, en fait, que ce sentiment d'insécurité est réactivé, que vous me dites aujourd'hui, je me sens très, très seule face à ça.
Oui. Oui, bien sûr que ça vient de moi aussi, la réaction. C'est pour ça que j'ai besoin d'être éclairée, de me dire, est-ce que c'est moi qui fais fausse route ? Est-ce que c'est une situation normale ? De son côté, ne sachant plus quand même comment faire, parce que je pense qu'il est quand même très attaché à moi, il a consulté un thérapeute, donc en décembre, là, très récemment. Et il aurait souhaité qu'on aille ensemble. Moi, je n'étais absolument pas prête.
Pourquoi ? Ça aurait été bien.
Il y avait tellement de choses à dire. Il y avait tellement de choses à dire que je sentais peut-être mal, peut-être à tort, mais je sentais qu'on n'allait pas réussir à dire tout et que. À côté de lui, je n'aurais pas réussi à dire tout ce que j'avais à dire.
Oui, vous savez qu'il en... Ouais.
Pardon.
Non, parce que je veux dire, quelquefois, quand on fait une thérapie de couple, on peut aussi se voir seul avec le thérapeute. Alterner, quand il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire devant l'autre, le thérapeute est un bon médiateur.
Oui, absolument. Bon, après, ce qu'il en est sorti, c'est qu'il n'y avait pas eu d'échange. Donc, moi, honnêtement, j'ai beaucoup plus eu l'envie d'appeler Sabine Marin que d'aller voir un thérapeute. Voilà.
On va dire que c'est une première étape, mais ça n'empêchera pas derrière de faire
bien
des
sûr,
choses.
Bien sûr.
Qui, du fond du cœur, si vous essayez d'enlever l'ego et le côté cogitation intellectuelle, du côté des émotions, qu'est-ce qui vous fait le plus de mal dans ce qui se passe là, dans cette façon répétitive de vous cacher les choses ? Quelle est l'émotion principale qui fait mal ?
La colère.
La colère.
La colère.
Ok. Derrière cette colère, il y a quoi ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme situation idéale à la place ?
Quelqu'un qui prend soin de moi. Quelqu'un qui s'occupe de moi. Quelqu'un qui ne me ment pas. Quelqu'un qui est loyal.
Est-ce que, en dehors des moments où il est pas là comme ça, où il va voir ses enfants ou son ex-femme, c'est un compagnon quand même qui tient à vous, qui s'occupe de vous ?
Non.
Ah, et ben voilà.
Je sais.
C'est pour ça que je vous dis que c'est un tiroir, parce que objectivement, quand on écoute juste l'histoire, j'avais envie de vous dire, attendez, ça va, il voit son ex-femme, ses enfants, il a le droit de... Ça me paraît pas un problème. Le problème, il est pas là en fait. C'est la superposition de tout ça qui déraille dans cette histoire.
Ben, c'est ce que je lui ai dit, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Là, quoi.
Parce que, effectivement, le mensonge est déclenché d'abord parce que c'est sa manière de fonctionner. Entre guillemets, c'est une sorte de lâcheté. Comme il sait que ça va vous mettre en colère, mais qu'il ne peut pas...
Il sait surtout que je ne vais pas l'accepter. Et donc, ensuite, il considère... En fait, j'ai un gros problème avec lui, c'est qu'il considère... Quand je n'accepte pas ça, il considère que je veux le couper de ses enfants, ce qui n'est absolument pas ça. Je suis la première à lui dire qu'il faut toujours favoriser les relations avec ses enfants. Moi, mes enfants, c'est toute ma vie. Et effectivement, tout comme lui, je ne permettrai à personne de faire un choix entre un compagnon ou mes enfants.
Ça, je crois que les choses sont très claires quand on vous entend là-dessus. Il n'y a aucune notion de rivalité avec les enfants.
Mais non.
Il y a une petite jalousie envers cette femme. Et il y a
une crainte. Je ne sais pas si c'est une jalousie, mais une crainte.
Ou une crainte. Oui. Et puis il y a surtout, effectivement, vous en avez ras-le-bol qui vous mente. Et là-dessus, je vous rejoins complètement.
Il me dit qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il est obligé de me mentir. Ben, parce que s'il m'en parle, je ne vais pas accepter. Donc, il a les fesses entre deux chaises. Sauf, comment peut-il alors... satisfaire et ses enfants et moi alors qu'on est dans deux directions différentes? Il ne sait pas. Il en est malheureux.
Je ne pense pas que ce soit ses enfants qui satisfassent dans cette situation-là. Parce que comme vous dites, ils sont adultes. Je crois que c'est lui qui compense quelque chose. Je ne suis pas du tout sûre que ce soit de l'ordre amoureux ou quelque chose comme ça. C'est plus une compensation de cette culpabilité d'avoir fait exploser le foyer à une époque donnée, quoi.
Oui, très certainement. Mais je dirais que même si dans un divorce, chacun a... Je l'ai compris très longtemps après. Mais que, je veux dire, les deux protagonistes ont quand même, je dirais, une part de responsabilité, même si y en a un qui a l'initiative. Mais je veux dire, justement, je comprends quand même difficilement cette culpabilité, parce que j'y ai pensé, qu'il pourrait avoir, alors que il a été quitté, quoi.
Ça, après, c'est vrai que c'est son histoire, c'est
oui,
autre chose.
Que je ne connais pas.
Ce qu'il y a de votre côté, c'est que je pense qu'il ne faut pas vous tromper de combat.
Oui. Oui.
Et je ne suis pas complètement sûre que le vrai combat soit dans cette histoire-là ou derrière cette histoire-là. Soit vous avez envie de le mener, ce combat. Le meilleur moyen, finalement, si vous comprenez que ce n'est pas ce combat-là qu'il faut mener, c'est de lâcher prise sur ça. Parce que si vous lâchez prise, il n'a plus aucune raison de vous mentir. Ok, si tu m'aimes, et si j'ai confiance en toi, vois qui tu veux. Si ça te fait du bien de voir ton ex-femme, ça m'est égal à partir du moment où tu ne me mens plus. Et là, vous lâchez prise et il n'y a plus de combat à mener. On ne peut pas mentir à quelqu'un qui dit ça, on n'a plus besoin de mentir. Mais ça, pour accepter ça, il faut que vous acceptiez que le combat, il est ailleurs. Vous avez d'autres reproches à lui faire.
Il faut aussi que j'accepte, et du coup, il faut aussi que j'accepte eh bien que ces retrouvailles aient lieu. Donc.
Moi, ce qui me semble plus embêtant, ce n'est pas la trouvaille, c'est le mensonge. Ça, le mensonge n'est pas acceptable.
C'est tout à fait ce que lui a dit la thérapeute qu'il a vue.
Mais voilà, parce que le mensonge, vous met dans une situation d'insécurité terrible, alors que si ça se trouve, il ne se passe rien, il va juste manger avec son ex-femme et ses enfants, c'est ça le pire.
Très certainement.
Il n'y a rien de condamnable, c'est la manière, c'est pas le fond, c'est la forme.
Eh bien, peut-être que je suis rigide, mais moi je trouve que le fond est condamnable aussi, c'est ça. C'est ça mon problème aujourd'hui, probablement. Parce qu'on n'est pas sur non plus une histoire anodine. Il est retourné avec cette femme.
C'est ça, où le terrain est fragile et là vous êtes blessé en fait. Donc vous réagissez, oui. Évidemment, vous surréagissez. Mm. Un peu comme vous savez, quand on a eu un accident de voiture, on entend juste les pneus crisser et on fait un bond. Quoi,
et on a peur.
Voilà. Et c'est ça, c'est là où votre mari devrait le comprendre. C'est ça qu'il devrait comprendre. S'il ne le comprend pas, enfin votre compagnon, pardon.
Oui.
S'il le comprend, oui. S'il ne le comprend pas, c'est... Il y a quand même un...
Ah si, je pense qu'il le comprend parce que lui, il est prêt justement à me dire les choses.
Ah.
Il est prêt à ne pas me mentir. Lui, il me dit qu'il me ment uniquement parce qu'il n'a pas d'autre solution.
Mais est-ce qu'il comprend que vous avez été blessée par ce qui s'est passé, blessée par votre histoire aussi? Est-ce qu'il peut comprendre que vous avez besoin d'être sécurisée? Vous avez quand même dit quelque chose d'important tout à l'heure, c'est même en dehors de ça, non, il ne s'occupe pas assez de moi. Parce que si vous étiez vraiment comblée, s'il s'occupait vraiment de vous, je pense que ça, du coup, ça passerait vraiment. Oui. Ça ferait un pas en arrière.
Probablement.
C'est pour ça que je vous dis, ne vous trompez pas de combat.
Oui, je sais, mais... Oui.
Parce que là, ce combat-là, si vous le menez, il y a deux options. Soit il vous dit, et je crains que ce ne soit pas vraiment comme ça que ça se passe... Bon, d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi, je ne la verrai plus, je laisse tomber, j'abandonne. Bon, soit il continuera à faire exactement ce qu'il fait avec ses enfants. Et dans les deux cas, vous êtes perdante. Parce que je pense que s'il vous dit qu'il arrêtera, il ne le fera pas.
Non.
Donc soit il vous le dira clairement, non, j'arrêterai pas. Non. Soit il vous dira, j'arrêterai, mais vous aurez toujours le doute, et j'avoue que moi aussi.
Oui.
Donc c'est un combat qui me paraît un peu truqué.
Oui, d'autant plus qu'il n'a pas le courage, en fait, tout simplement de dire à ses enfants. Il n'a pas ce courage, il n'arrive pas à leur dire, écoutez, je ne souhaite plus que votre mère soit en ma présence quand je viens vous voir. Il n'arrive pas, mais au fond de lui, parce qu'il n'en a pas forcément l'envie et qu'il préfère faire plaisir à ses enfants. Accéder à leur demande, que moi, je reste butée, je dirais, là-dessus, mais que moi, j'ai du mal à admettre. Peut-être parce que je ne fonctionne pas comme ça non plus avec mon ex-mari.
Il y a de ça aussi, c'est pour ça que je posais la question.
Oui, absolument.
C'est évident que c'est pas évident quand c'est à sens unique. Là, je vous rejoins pas tellement, c'est quand vous disiez tout à l'heure, quitte à ce qu'on se voit, autant qu'on se voit avec les deux conjoints de chaque côté.
Oui, dites-moi.
Peut-être une fois par an, mais c'est pas forcément ça. Je peux comprendre, dans un contexte sain, attention, hein, je dis bien dans un contexte sain, ce qui n'est pas le cas là.
Non.
Moi, je pourrais parfaitement comprendre qu'il aille passer du temps avec ses enfants et son ex-femme. Un anniversaire, par exemple, ah oui, en famille, avec maman et papa, ça, je peux le comprendre.
C'est vrai, vous pouvez le comprendre.
Oui, franchement, oui. Parce qu'une
même
fois
à
plus,
cet âge-là. Et ça
oui,
vous...
parce qu'à un moment donné, quand on lâche prise sur ces choses-là, on est bien plus heureux dans la vie. Mais ce qui m'ennuie plus, c'est que il y a une lacune dans votre relation, il ne s'occupe pas assez de vous. Si vous étiez comblé de l'autre côté, je crois que là-dessus, ça serait beaucoup moins d'importance. Et c'est ça qui est important, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler.
D'accord.
S'il y a de l'amour entre vous, qui prennent soin de vous, qui comprennent des choses.
Mais là-dessus, je ne suis pas très optimiste. Je ne suis pas très optimiste. Au bout de 10 ans où on se connaît, je pense que quand on a pris des façons de vivre à la célibataire...
Qu'est-ce que vous aimeriez, en fait, dans cette relation, d'avoir en plus de sa part?
Plus d'attention, plus... peut-être passer un petit peu sur la première marche de temps en temps.
Ah oui.
Parce que c'est pas le sentiment que j'ai.
Oui,
et aller peut-être être un peu moins, parce que moi-même je le suis trop et je me rends compte que ce n'est pas bon. Et j'aimerais que lui soit moins dans son passé, mais un peu plus dans l'avenir. Et ça, en fait, on n'y est pas du tout.
Et vous, vous êtes trop dans quoi, vous me dites?
Moi aussi, je suis trop dans la nostalgie. Ouais. Mmh. Ouais. J'ai du mal à avancer. C'est pour ça qu'au bout de 10 ans, je vous dis, on n'a rien construit. Donc là-dessus, je dirais qu'on est aussi un petit peu complices et certainement chacun responsable.
Là, vous avancez en marche arrière dans votre histoire, quoi.
Ouais. Ouais.
Il n'y en a aucun des deux qui a envie de franchir le pas, de s'installer ensemble?
Non.
Vous non plus?
Non.
Eh oui.
Et non, je me préserve, Sabine.
Oui.
J'ai eu beaucoup trop mal et je me préserve.
Oui, mais du coup, ça vous met, c'est vrai, dans une position qui n'est pas sur la première marche, comme vous dites.
Évidemment.
Parce que vous n'avez pas... Vous avez une légitimité dans son cœur, mais c'est vrai qu'officiellement, socialement, il n'y a pas tout à fait la même légitimité.
Alors, socialement, je dirais qu'en dehors de ses enfants, qui ne souhaitent d'ailleurs pas me voir, hein, c'est clair, hein, en dehors de socialement, on s'affiche ensemble, il n'y a aucun souci, quoi. Hein.
Vous êtes un couple officiel. Mais,
oui. Sauf que je ne fais plus non plus... je suis devenue, moi aussi, beaucoup plus égoïste dans la relation. Je ne fais plus autant d'efforts que je faisais avant, donc ce n'est pas bon.
Ouais.
Je ne fais plus autant d'efforts pour lui faire plaisir. Je n'ai plus envie.
Et vos filles, c'est des filles, hein, que vous avez, vous?
Non, j'ai des garçons.
Ah, des garçons, pardon. Est-ce que vos garçons ont un contact avec lui?
Oui, très très bon.
Ah, dans ce sens-là, ça fonctionne?
Ah, très très bon. Ah oui. Il s'entend très bien avec mes enfants. Mes enfants l'aiment bien, il n'y a aucun problème. Aucun problème.
Ouais.
Aucun problème, mais ses enfants, par contre, honnêtement, je pense qu'ils ont été un petit peu manipulés entre guillemets par leur mère.
Oui,
bien sûr.
Il y a quelque chose de pas très très clair dans cette relation.
Non, tout à fait. Il y a quelque chose de pas clair.
Il y a un sparadrap qui n'a pas été complètement arraché.
Il y a quelque chose de pas clair. Et là où je vous rejoins complètement, Sabine, c'est quand vous me dites tout à l'heure, de toute façon, s'il vous dit que ça ne se repassera pas, de toute façon, c'est pas vrai. Et j'en suis convaincue aujourd'hui. Donc j'ai l'impression, c'est pour ça que je vous disais que je suis perdue. J'ai l'impression d'être vraiment face à un mur. Donc, soit j'accepte, mais à contre-cœur, ou soit il faut que je prenne une autre direction. Mais j'en suis pas...
Je crois pas que vous êtes vraiment prête pour ça. Je pense que le mur est pas là, c'est ce que je vous disais.
Oui.
Le mur est pas là. Ça, c'est un combat qui sert pas à grand-chose pour moi. C'est le vrai combat, c'est de savoir si vous... construisez, alors je ne suis pas forcément matériellement avec une maison,
non, non.
Même, mais est-ce que votre histoire, est-ce qu'il y a encore suffisamment d'amour des deux côtés pour que vous construisiez quelque chose de sympa, dans lequel vous êtes dans une relation dans laquelle vous êtes bien? Et mieux vous serez dans cette relation, moins le reste aura d'importance.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que quand on est instable, il suffit d'un coup de vent pour qu'on tombe.
Oui.
Quand on est stable, il peut y avoir une tempête, on ne bouge pas. Et là, ce qui se passe, ce n'est pas une tempête, c'est un coup de vent. Mais comme ça tangue de l'autre côté, forcément, ce n'est pas très bon. Est-ce que vous avez des amis proches à qui vous en avez parlé de ça?
Oui, c'est arrivé, oui.
Non, mais là,
des proches et qui me disent, mais moi, je n'accepterai jamais ça, je ne supporterai pas.
Ouais. Bon.
Voilà.
Attention, raccourci.
Bah oui, quand on n'est pas dans une situation, c'est tellement simple. Hein, Mais donc, non, je n'échange pas beaucoup parce que j'ai un petit peu l'impression aussi que ben c'est tant pis pour moi si je me complais aussi dans une relation qui n'est pas satisfaisante. Hein. Aujourd'hui, je ne suis pas mariée, rien ne m'oblige, je veux dire, à rester dans cette relation.
Ce qui est intéressant, c'est que vous en avez pris conscience et ce qu'il faudra arriver, c'est à comprendre pourquoi ce besoin de protection, finalement, vous met dans une situation où, pour vous protéger, vous arrivez à vous faire du mal, finalement. Je me protège tellement que je ne construis pas, mais comme je ne construis pas, je ne suis pas solide.
Oui.
Donc, il y a un équilibre à retrouver de ce côté-là. Mais vraiment...
Et c'est vrai que des situations, en discutant avec vous, je me rends compte que des situations prennent peut-être chez moi des proportions qui ne devraient pas. Donc effectivement, il y a peut-être en plus un nœud ailleurs. Hein. Mais comme je vous donnais l'exemple tout à l'heure, moi ça me choque terriblement qu'ils me disent, moi ne viens pas me voir, non, c'est pas la peine de venir me voir à l'hôpital et d'apprendre qu'en fait... Là, ce n'est pas pour ses... Si vous voulez, Sabine, là, je ne comprends pas, ce n'est pas pour ses enfants.
Non, là c'est pour ça que je vous dis que là, il y a plusieurs tiroirs dans l'histoire.
Il y a un problème, quoi.
Là, il y a quelque chose...
C'est pas pour ses enfants. Ouais. Et il n'est pas capable de lui dire, bah, écoute, non, je préfère pas que tu viennes, ou d'être claire avec elle. Non. Donc, est-ce que, entre guillemets, il la garde sous le coude, excusez-moi pour l'expression.
10 ans, ça me paraît long, quand même.
Oui.
Ça me paraît long.
Oui.
Mais est-ce que vous ne pouvez pas avoir une conversation vraiment sincère avec lui ?
Non.
Non.
C'est impossible. Il déteste le conflit.
Je ne parle pas de conflit, je parle de conversation, pas d'accusation.
Non, mais il fuit. Il va, que vous dire, il va mettre la télé et puis voilà, on ne parle pas.
Ah oui, mais là, si vous n'arrivez pas à parler avec lui, vous n'allez pas réussir à avancer ni à résoudre quoi que ce soit.
Je sais. En même temps, discuter avec moi n'est pas non plus chose facile, hein. Je creuse, j'entends les choses qui vont me faire du mal et j'explose.
Ouais. C'est pour ça que je regrette vraiment que cette thérapie de couple n'ait pas commencé, parce que vous auriez été encadré par quelqu'un qui aurait évité ça, qui vous aurait amené à avancer et pas à exploser.
Ce n'est pas trop tard.
C'est une question ou une affirmation ?
Non, c'est une affirmation.
Ah d'accord, alors ça me va. Il n'est jamais trop tard, parce que j'entends quand même qu'il y a de l'amour dans cette histoire-là. Il y a des blessures de partout.
Il y a des blessures de partout qui sont usantes. Mm. De l'amour, moi je ne sais plus si c'est le mot approprié. En tout cas, il y a de l'attachement très fort, c'est certain. Mais je n'arrive plus forcément à situer non plus le degré de sentiment.
Bon, déjà,
Parce que par moments, il me dit je vois bien que tu ne me supportes plus. C'est dur. Et en fait, ce n'est pas lui que je ne supporte
c'est
plus.
C'est la situation. C'est la situation, bien sûr. Ouais.
Voilà, ce n'est pas lui, ce n'est pas l'homme. C'est les situations et quand même le manque d'attention.
Ouais.
Le manque d'attention.
En tout cas, il y a deux choses, Marie. D'abord, merci beaucoup pour... votre confiance, merci de nous avoir ouvert votre cœur comme ça. Je pense que cette conversation va vous donner à réfléchir.
Oui.
Je pense qu'il y a des petites portes qui se sont ouvertes, des petits tiroirs pour rester sur ces images-là.
Oui.
Et pour moi, il n'y a pas d'autre solution là qu'un thérapeute de couple. Parce que si vous n'arrivez pas à avoir une vraie communication tous les deux, vous n'allez pas vous en sortir. Mais avant de commencer cette thérapie, c'est bien de continuer à réfléchir à tout ce qu'on s'est dit ce soir.
Tout à fait.
Savoir quel combat vous avez envie de mener et lequel vous laissez tomber.
Je vais y réfléchir.
Ça me paraît important de commencer par ça.
Oui. Et je je ne sais pas, mais si jamais des auditeurs ont vécu des situations similaires.
Alors, je vous cache pas qu'on a quelques réactions, mais dans ces cas-là, c'est toujours pareil. Il y en a la moitié qui disent blanc, l'autre moitié qui
oui,
disent.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
La moitié disent oui, le problème, il a le droit de faire des réunions de famille, mais on a bien compris que ce n'était pas ça. D'autres qui disent le mensonge est insupportable. Vous aurez toujours dans ces cas-là,
effectivement, oui,
voilà. Donc, c'est pour
vrai.
Ça, c'est comme les amis.
Chacun, en fonction du vécu de chacun.
Exactement,
oui.
Vous l'avez compris. C'est pour ça que ce qui compte, c'est ce que vous avez dans le fond de votre cœur. C'est ça le plus important.
Tout à fait.
Hein, Marie ?
Tout à fait. Je vais réfléchir à tout ça.
Je vous souhaite de voir
lui faire écouter cette émission.
J'allais vous le dire, peut-être pourquoi pas. Et pourquoi pas, si ça peut déclencher une conversation. Cher monsieur, c'est tout ce que je vous souhaite aussi à vous. De retrouver le chemin de vos deux cœurs, en tout cas.
Voilà. Merci beaucoup, Sabine.
Merci de votre appel, Marie. Je vous embrasse.
Merci. Au revoir.
Vous écoutez Europe 1. Il est minuit. Et c'est Chanel Petit qu'on retrouve pour les infos. Bonsoir à vous Chanel.
Bonsoir Sabine, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la 11e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Fin d'après-midi sous tension à Paris. Heure, place de la Bastille, la place de la République évacuée par les CRS. 200 musiques de films, 3 Oscars, une palme d'or. Michel Legrand nous a quittés la nuit dernière. Il reste immortel, nous dira ému son ami et compositeur Vladimir Cosma. Et puis le foot, les résultats de la suite de cette 22e journée de Ligue 1. Ce n'est toujours pas ça pour Monaco.
Europe 1.
Le temps d'une soirée, la place de la République devait être la place des Gilets jaunes. Plusieurs centaines de manifestants étaient réunis pour une nuit jaune, une nocturne pour fédérer un mouvement qui a tendance à se diviser. Rapidement, les tensions sont devenues de plus en plus vives. La place de la République a été évacuée par les CRS en début de soirée. Énorme déception et agacement pour Thierry Paul Valette, l'un des organisateurs de l'événement.
Moi, les violences policières, quand il y en a eu, je les ai toujours dénoncées. Moi, je sais qu'à la place de la République, il n'y avait pas de violence policière, ça se passait bien. Il y a un groupe d'une vingtaine de personnes qui s'est mis à caillasser, à acheter des canettes de bière sur les CRS. Les CRS ne disaient rien, n'ont pas chargé. Moi, avec mon microphone, j'ai appelé au calme, je leur ai demandé d'arrêter. Ils ont continué. Les CRS, ils n'ont pas chargé tout de suite. Mais au bout de 20 minutes, les CRS, malheureusement, à se faire caillasser, mais nous, on a reçu des canettes de bière, et bien, ils ont foncé dans le tas, ils ont tout nettoyé la place, retour au calme. Là, sur ce coup-là, à la place de la République, ce soir, moi, j'assume et je dis que eux, ils ont fait leur travail. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de débordement ou des rives policières à la place de la Bastille.
Thierry Paul Valette au micro de Jean-Jacques Herry pour Europe 1. D'ailleurs également place de la Bastille, toujours à Paris cet après-midi. Un gilet jaune proche d'Éric Drouet, un des leaders du mouvement, a été blessé à l'œil. L'IGPN, la police des Paulines, s'est saisie de l'affaire. 4000 manifestants dans la capitale aujourd'hui, 69 000 dans toute la France. C'est 15 000 de moins que samedi dernier, selon le ministère de l'Intérieur. À Bordeaux, importante mobilisation avec 5 000 personnes dans les rues. L'une des figures nationales du mouvement, Maxime Nicole, a été brièvement interpellée dans la soirée. Il a ensuite été relâché. Podane, les demoiselles de Rochefort, les parapluies de Cherbourg, autant de films dont il a signé la bande originale. Le compositeur français de génie Michel Legrand est mort la nuit dernière à l'âge de 86 ans. Cet homme donnait sa vie à chaque fois qu'il jouait, a notamment réagi à l'interview le président des Césars. Emmanuel Macron salue un inépuisable génie. Le réalisateur Claude Lelouch, un immense musicien. Autre réaction ce soir, celle du compositeur qui était aussi son ami, Vladimir Cosma.
J'ai toujours considéré Michel Legrand comme quelqu'un d'immortel. Il était d'abord une nature particulière, très enthousiaste, aimant la vie, ne croyant pas possible de disparaître. Je vais me souvenir de tout ce qu'il a laissé musicalement parlant, qui n'est pas forcément ce dont on parle aujourd'hui, parce qu'on parle surtout de Michel Legrand, compositeur de musique de film, alors que pour moi, il reste d'abord un arrangeur extraordinaire et quelqu'un qui a révolutionné l'art de l'orchestration, notamment à ses débuts, quand il avait 16 ou 18 ans, il a fait des disques extraordinaires, novateurs. Donc c'est ça pour moi qui va rester le plus.
Vladimir Cosma, ami de Michel Legrand et compositeur de talent. L'œuvre de Banksy réalisée sur la porte de secours du Bataclan à Paris a été volée ce week-end. Les gérants de la salle de spectacle font part de leur profonde indignation. Ce dessin de l'artiste britannique représente une personne qui se recueille en mémoire des victimes du Bataclan. L'œuvre avait été réalisée en juin dernier. Le foot, 4 résultats ce soir pour la suite de cette 22e journée de Ligue 1. Guingamp reste lanterne rouge après son revers à domicile face face à Reims, 1-0. Strasbourg bat Bordeaux sur le fil, 1-0. Nice vainqueur de Nîmes, 2-0. Enfin, Monaco sombre encore un peu plus à Dijon, 2-0. Toujours 19e du championnat et c'est très compliqué, avoue le défenseur monégasque Djibril Sidibé.
On est dans le dur, c'est sûr que c'est très très compliqué. On sent un groupe très perturbé avec tout ce qui se passe, changement de coach. Donc c'est pas évident de travailler dans ces conditions, mais voilà, la réalité c'est qu'on est relégable aujourd'hui. Donc voilà, tant qu'il y a de l'espoir, on va continuer à travailler et puis bosser pour aller chercher des points tout simplement.
Djibril Sidibé, attaquant monégasque au micro européen de Damien Ardoy. Les autres matchs, demain, Montpellier-Caen à 15h, Amiens-Lyon à 17h, Toulouse-Angers à 20h et enfin PSG-Rennes à 21h. En top 14 de rugby, 15e journée, victoire de Lyon ce soir 32 à 11 face au Racing 92. Succès aussi entre autres de Castres sur le leader du championnat Clermont 24 à 16. On termine ce journal avec un mot de votre météo de demain. Valérie Darmon,
oui,
vous n'êtes pas porteuse de bonnes nouvelles aujourd'hui. C'est pluie.
Et oui, si vous habitez entre la Vendée, la Bretagne, le bassin parisien et les régions voisines de la Manche, alors attendez-vous à de fortes averses, de la grêle et des coups de tonnerre, ainsi que des rafales pouvant dépasser les 110 km/h sous les grains orageux. Dans l'Est, là aussi, fortes averses toute la journée, parfois accompagnées de grêle. Dans les Vosges, abondantes chutes de neige toute la journée, au-dessus de 700 mètres. Et puis en soirée, ce risque d'averses de neige descend jusqu'en plaine, notamment sur les Hauts-de-France. Soyez surtout prudents dans la nuit de dimanche à lundi, mais on en reparlera. Averses parfois très fortes en Auvergne, en Rhône-Alpes, en Bourgogne et en Franche-Comté aussi. Dans le sud-ouest, il pleut. Attention aux fortes chutes de neige sur les Pyrénées et surtout au vent avec des rafales aux alentours de 120 km/h près des sommets. Près de la Méditerranée, vous êtes privilégiés, vous échappez aux pluies et aux averses, mais pas aux nuages. Les températures, elles sont au redoux et l'après-midi, entre 5 à Mende et 14 degrés à Marseille.
Merci Valérie Darmon. Il est minuit passé de 6 minutes tout de suite. On retrouve la Libre Antenne avec Sabine Marin. Pour participer, c'est simple. Il suffit d'appeler le 3921.
Europe 1, 23h, 1h, la Libre Antenne. Sabine Marin.
C'est de 7 minutes, ça veut dire qu'il nous reste une petite heure à passer ensemble. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 3921 tout au long de l'émission. Si je n'ai pas le temps de vous écouter ce soir, je vous rappellerai demain soir, c'est promis. Amandine et Hassan sont là au standard pour accueillir vos appels en toute bienveillance. Vous le savez, vous pouvez aussi à tout moment participer à cette émission par SMS en envoyant le 739-21. En commençant bien par le mot « nuit », vos SMS sont toujours très importants pour soutenir ou encourager quelqu'un que vous entendez à l'antenne et qui vous touche. Amener une idée, une suggestion qui pourrait l'aider ou simplement si vous souhaitez entrer en contact avec la personne que vous souhaitez connaître.
Europe 1, la Libre Antenne. Sabine Marin.
Et c'est Annette que j'accueille maintenant. Bonsoir à vous Annette.
Bonsoir Sabine.
Oh, je vous entends pas très bien.
Vous m'entendez là?
Vous pouvez parler un petit peu plus près de votre combiné peut-être?
Ben je suis prêt là.
Alors, je suis prêt. Allez-y, je vous écoute.
Oui, alors je voulais parler de ma petite sœur parce que elle est bipolaire. Elle a été diagnostiquée bipolaire et elle nous a menacé de venir avec son couteau à pain.
Quand vous dites petite sœur, elle a quel âge?
Elle a 41 ans, on a 10 ans de différence.
D'accord.
Et quand elle est en crise, enfin, des fois, je l'ai au téléphone, elle me rappelle, on se rappelle une fois toutes les semaines, moi je prends ses nouvelles, mais des fois ça part sur... Quand elle est en crise, alors, elle m'a dit, je vais venir avec mon couteau à pain. Il faut l'oublier, il ne faut plus l'appeler.
Allô ?
Oui. Ah, allô, oui, oui. Oui.
Elle vit comment, cette femme ? Est-ce qu'elle est seule ? Est-ce qu'elle vit avec quelqu'un ?
Eh bien, elle vit avec son compagnon. Mais bon, ça se passe pas bien entre eux. Mais bon, ça, moi, je me mêle pas de sa vie privée.
Et elle a été diagnostiquée il y a combien de temps ?
Il y a quelques années, à Cochin.
Et est-ce que vous savez quel type de bipolarité elle a ?
Ah, je ne sais plus.
C'est qu'il y a trois types.
Oui.
Et est-ce qu'elle a un traitement ?
Oui, elle a un traitement. Elle est suivie à Cochin par docteur Granger, mais...
Donc visiblement, malgré le traitement, elle a des crises.
Oui, oui, oui. Alors, est-ce qu'elle prend bien son traitement ? Je ne sais pas.
Les menaces qu'elle profère à votre égard, c'est par téléphone ou c'est en visio ?
Non, c'est par téléphone.
Et derrière, il ne se passe rien, évidemment ?
Non.
Il ne s'est jamais rien passé, en fait ?
Non, non. Bah, elle n'est pas tout près, hein. Elle a 80 km à faire, donc...
Et comment vous réagissez quand elle a des accès comme ça de violence ? Verbale ?
Ah bah, moi, ça me fait peur. Parce que j'en ai parlé à maman. Qui a dit, va peut-être voir son médecin, mais je ne sais pas si...
Mais vis-à-vis d'elle, comment est-ce que vous réagissez sur le moment ?
Je raccroche. Je raccroche.
Et ça suffit ? Elle se calme ou elle vous relance ?
Non, non, ça suffit.
Et donc, c'est déjà arrivé plusieurs fois, si je comprends bien, ce genre de scénario ?
Oui, oui, oui.
Et qui est-ce...
Trois fois.
Qui reprend contact avec l'autre à ce moment-là ?
Et là, ça fait presque un mois. Moi, je décide cette année de ne plus reprendre contact avec elle.
Parce que vous savez que les gens qui souffrent de cette pathologie ont donc des hauts et des bas.
Oui.
Mais quand ça va mieux, quand ils sont calmes, elle est tout à fait capable de vous rappeler presque comme si de rien n'était.
Oui, ça s'est déjà fait.
Oui, c'est ça.
Ça s'est déjà fait.
Est-ce que vous vous êtes fait aider ? Est-ce que vous avez pu parler avec un médecin ou un spécialiste de ce problème-là ?
Ben moi, j'ai une thérapeute, donc non, on n'en a pas vraiment trop parlé. Pas encore, parce que ça ne fait que quelques mois que je suis suivie.
Parce que vous savez qu'il existe deux associations qui pourraient vous aider, notamment l'association Argos 2001,
oui.
Qui est spécialiste des problèmes de bipolarité. Et vous pourriez peut-être les appeler ou aller voir sur leur site pour avoir des informations. Parler à des gens qui sont vraiment spécialistes de cette pathologie qui pourraient vous aider, vous conseiller. Et la deuxième association, c'est l'UNAFAM. Est-ce que vous avez de quoi noter, là ?
Je vais essayer. Vous n'avez pas plutôt des numéros de téléphone ?
Si vous voulez.
Je suis non-voyante.
D'accord. Ah, parce que si je vous les donne là, vous allez réécouter l'émission pour les avoir, c'est ça ?
Non, je vais les essayer de les retenir.
Alors, vous pouvez joindre Argos 2001 au 01 46 28 01 03. 46 28 01 03.
Oui.
Si vous voulez, Amandine vous les redonnera hors antenne ces numéros. Effectivement,
oui.
La raison, ce sera plus simple. Elle vous donnera aussi le numéro de l'UNAFAM.
D'accord.
Qui sont deux associations que vous pourriez appeler pour avoir en ligne des gens qui sont vraiment spécialistes de ça. Pour vous aider à comprendre aussi ce qui se passe et peut-être à pouvoir savoir quel comportement adopter.
Bah,
c'est ça votre problème, votre question, c'est ça ?
Oui, puis moi je suis pas rancunière, donc je me fâche pas avec elle.
Bah, c'est compliqué.
Elle est malade.
Bah, voilà, c'est compliqué d'être rancunier envers quelqu'un qui est malade, qui a une pathologie psychiatrique.
Ah oui, 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 oui.
Bien sûr.
Oui. Pas comme ma famille où tout le monde s'est fâché avec elle. Enfin, tout le monde. Mes parents, mon frère.
Et peut-être que justement, les gens manquent d'informations sur cette maladie. C'est pour ça que je
oui,
dis,
oui.
Si vous pouviez contacter une association qui gère vraiment ça au quotidien, vous pourriez aussi expliquer aux gens de votre famille de quoi elles souffrent. Comment ça se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Parce que se fâcher, ça ne sert pas à grand-chose avec quelqu'un qui est malade.
Non, non, non. Non.
Quel était le but de votre appel, Annette, ce soir ?
Voir si je devais consulter son médecin.
Bah, Vous pouvez, alors si vous, moi je vous conseillerais, si vous le faites, de ne pas lui dire à elle, parce qu'elle peut se sentir un peu agressée, ça peut sentir intrusif. Ah, si vous avez besoin d'aide et de conseils, pourquoi pas lui passer un coup de fil en lui disant, écoutez, voilà, je suis un peu perdue, je ne connais pas exactement cette maladie, est-ce que vous pourriez m'expliquer qu'est-ce que je dois faire?
Oui.
C'est aussi effectivement une piste, mais faites-le discrètement. Parce que ça peut être vécu comme une intrusion dans son, sur son territoire.
Je vais appeler les associations et je vais leur parler de cette petite sœur.
Parce que je pense que plus vous aurez d'informations, mieux vous saurez gérer ce genre de choses. Bien que ce ne soit pas à vous de le gérer, sauf quand elle vous agresse, savoir comment vous positionner et comment faire.
Oui, ne pas...
Tout dépend aussi du...
Oui, parce qu'elle crie, elle crie quand elle... Ouais. Quand elle se fâche, elle crie et... Il est impossible de placer un mot, hein, de toute façon.
Mais vous avez bien compris qu'elle ne le fait pas exprès. Ce qui est un petit peu... Effectivement, la question que vous pourriez poser à son médecin, c'est la question du traitement. Quel traitement elle a? Ça dépend une fois de plus du type de bipolarité dont elle souffre. Certaines fois, ça peut être parfaitement stabilisé avec les bons médicaments aussi.
Mais là, elle devait aller en clinique, dans l'Aisne. Donc elle va elle va en clinique dans l'année.
Oui, mais visiblement, si elle a des crises comme ça, c'est qu'au quotidien, elle n'est pas stable.
Ah oui.
Donc ça, vous pourriez poser la question à son médecin, savoir pourquoi.
Oui.
Est-ce que sa pathologie est trop lourde pour être stabilisée facilement? Est-ce qu'elle prend vraiment le bon traitement? Est-ce qu'elle le prend tout court, déjà?
Oui.
Et puis, je pense vraiment que si vous entrez en contact avec ces associations, ça vous fera peut-être du bien d'échanger avec des gens qui ont quelqu'un dans leur famille qui a le même problème, vous savez.
D'accord, je vous remercie alors.
C'est toujours important. Même si on a ce sort, c'est pas le cas pour l'instant, mais si on a ce sort des auditeurs qui sont touchés de près ou de loin par cette pathologie, par ce problème, s'ils veulent bien entrer en contact avec vous, vous permettez qu'on vous laisse leurs coordonnées?
Oui, oui, oui.
Hein, donc ce qu'on fera, c'est qu'Amandine vous rappellera dans le cours de l'émission, là, d'ici 1h du matin, si on a des gens qui ont ce même problème et qui veulent entrer en contact avec vous pour échanger, simplement, ça fait du bien de savoir comment faire, quoi. Quand on un proche touché par cette maladie-là. D'accord, Annette.
Parce que j'ai une amie qui a sa fille qui est comme ça, mais c'est peut-être qu'elle est stabilisée. Elle a pu mettre une petite fille au monde et se marier et voilà quoi. Enfin, elle le vit bien sûr avec son traitement.
Oui, mais ça c'est stable, bien sûr. C'est ce que je vous disais. C'est pour ça qu'il faudrait comprendre un peu ce qui se passe avec votre sœur. Et ça, il n'y a que des professionnels de santé qui pourront vous le dire, qui la connaissent, quoi. Donc, son médecin.
Oui, d'accord.
Ne quittez pas Annette, moi je vais vous quitter tout de suite, mais je vous laisse avec Amandine.
D'accord.
Qui va vous redonner les numéros de téléphone.
Oui.
Déjà des associations et voir avec vous comment elle peut vous mettre en lien avec des auditeurs qui pourraient appeler pour vous ce soir, d'accord?
D'accord, je vous remercie, Samuel.
Je peux vous embrasser, Annette?
Oui, moi aussi.
Alors, je vous embrasse très fort.
Oui, au revoir.
Au revoir.